RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier, bienvenue dans ce studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, toujours en partenariat avec le quotidien La Croix. Alors l'actualité de l'Église catholique est, ces derniers temps, vous l'avez remarqué, parcourue de tensions. Dans le cadre du synode en cours, appelé par le pape François, et à la suite du rapport sur les abus sexuels, beaucoup s'interrogent. Quel doit être le rôle et le statut du prêtre? Quelle doit être la place de la hiérarchie épiscopale dans l'organisation de l'Église? Plus largement, comment concilier la fidélité à l'Église et la volonté de participer à d'indispensables réformes? Eh bien, sachez-le, toutes ces questions-là, d'autres que nous, et non des moindres, se les ont posées par le passé, notamment durant la première partie du XXe siècle, parmi eux François Mauriac. Notre grand écrivain catholique n'a cessé d'être rongé toute sa vie par cette tension entre fidélité et contestation au sein de l'Église. Avec nous, Philippe d'Azébrun, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. En votre compagnie, nous allons revisiter sous ce prisme l'œuvre de François Mauriac. Votre livre s'intitule « Mauriac dans l'Église catholique » ou « La fidélité aux aguets ». Il est publié aux éditions du Cerf. Nous nous retrouvons dans quelques instants. À vos côtés, Florian Michel, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous également dans ce studio. Alors, vous enseignez l'histoire culturelle et religieuse à la Sorbonne et vous publiez ou vous republiez, vous nous le direz tout à l'heure, un texte étonnant qui met en scène le milieu littéraire chrétien de l'entre-deux-guerres. Ce texte est signé Hélène Isfolsky. Hélène Isfolsky était fille de diplomate russe, exilée en France, écrivaine, pionnière de l'œcuménisme. Elle a aussi vécu de l'intérieur les tensions propres à tout chrétien. Elle a bien connu cette étonnante vitalité spirituelle de l'entre-deux-guerres sur laquelle nous allons revenir. Et puis enfin avec nous également Isabelle de Gaulmin, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef à La Croix et vous suivez de près, depuis longtemps, l'actualité de l'Église en France et dans le monde. Notre thème aujourd'hui, donc, dans cette édition des Racines du Présent, d'hier à aujourd'hui, comment vivre et croire en liberté au sein de l'Église catholique.
Les Racines du Présent, Frédéric Mounier.
Aujourd'hui donc notre thème, d'hier à aujourd'hui, comment vivre et croire en liberté au sein de l'Église catholique. Nous sommes en compagnie d'Isabelle de Gaulmin, rédactrice en chef à La Croix, de Florian Michel qui va nous parler tout à l'heure de Hélène Isfolsky autour de son livre « Au temps de la lumière », c'est chez Salvator. Et je me tourne vers Philippe d'Azébrun pour son livre « Mauriac dans l'Église catholique » où « La fidélité aux aguets » s'est publié aux éditions du Cerf. Alors Philippe d'Azébrun, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse. Vous êtes secrétaire de la Société internationale des études mauriaciennes. Et vous nous expliquez, le titre de votre livre est tout à fait significatif, « Mauriac dans l'Église catholique » ou « La fidélité aux aguets ». Pourquoi ce titre, Philippe d'Azébrun ?
Il m'a paru, lorsqu'on regarde l'itinéraire de Mauriac dans l'Église catholique, qu'il est resté toute sa vie effectivement fidèle à sa foi. Fidèle à Rome aussi, mais que cette fidélité ne l'embarrassait pas d'une certaine liberté de penser et liberté de dire.
Et liberté voilà. D'écrire également.
Et d'écrire, bien évidemment. Ce qui fait que cette liberté allait de pair avec une forme de vigilance, d'où les aguets.
Voilà, les aguets. Cet homme a été, on peut le dire, rongé en quelque sorte par cette tension entre fidélité et volonté de réforme au sein de l'Église.
Oui, dès son tout jeune âge, dès qu'il rentre dans le sillon. Il a une vingtaine d'années et il y rentre avec beaucoup d'intérêt pour la cause sociale qu'il découvre.
Alors peut-être rappelez-nous le Sillon, rappelez-nous en quelques mots.
Le Sillon est une formation créée par Marc Sangnier, catholique social, qui veut réconcilier l'Église et le peuple et l'Église et la République. L'Église et le peuple dans un premier temps, puis l'Église et la République dans un second.
Et nous sommes dans les toutes premières années du XXe siècle.
Des années 1900, en effet. Et il milite peu, mais je crois que ce temps qu'il met à militer dans le Sillon est fondateur, parce qu'il découvre un pan de la société, l'aspect social est là, ouvrier, qu'il ne connaissait pas du
tout. C'était pas du tout son monde.
Non, pas du tout.
Voilà.
Alors, il milite peu, mais il rencontre surtout Marc Sangnier.
Et alors, vous écrivez avec pudeur, Philippe d'Azébrun, que cette adhésion de François Mauriac au sillon de Marc Sangnier témoigne, je vous cite, d'une audace d'engagement qui ne trouvait pas dans le clergé français un unanime assentiment. Que voulez-vous dire, Philippe d'Azébrun ?
Eh bien, disons que le clergé français à l'époque n'était pas totalement convaincu des démarches qu'avait orientées Léon XIII à cette époque-là.
Mmh. Rappelez-nous.
C'est-à-dire l'ouverture au monde social.
Oui.
Et une défense de la condition ouvrière qui, jusque-là, était restée un peu dans le monde de la charité et non pas dans une prise en cause à bras-le-corps comme l'encyclique Rerum Novarum 1891 l'orientait.
Alors, qu'est-ce qui fait que François Mauriac a été séduit par Marc Sangnier au départ ?
Eh bien, d'abord, il y avait, je dirais, une forte présence de son frère, Jean, qui sera l'abbé Jean Mauriac, qui l'a, je dirais, profondément orienté dans cette démarche du sillon. Et puis il y avait, je crois, un caractère assez atypique dans la fratrie, ce qui fait qu'il allait toujours, du moins il était plutôt orienté vers les marges, vers ce qui était aussi inconnu. Si bien que lorsqu'il s'engage dans le sillon, il va au-devant d'un monde qu'il ne connaît pas.
Et alors, comment ça se passe ?
Eh bien, ça se passe plutôt mal. On a quelqu'un qui est peu concerné par la camaraderie que l'on trouve au sein du sillon. Il y a une fraternité qu'il ne partage guère. Et puis surtout, la rencontre avec Marc Sangnier ne se passe pas très bien.
Alors, Marc Sangnier est une personnalité très, très charismatique.
Très charismatique, voilà. On dirait même christique.
Christique à ce point-là,
oui. Mesure. Oui, pour ses disciples, c'était un peu ça.
Et donc, c'était un gourou, pour utiliser le mot d'aujourd'hui.
Certains l'ont dit. En tout cas, des biographes de Mauriac. Et donc, Marc Sangnier est la vedette d'un meeting à Langon. Et Mauriac le reçoit avec quelques-uns de ses amis chez lui. Et la rencontre se passe mal, à la vérité, puisque tout l'intérêt que suscite Sangnier autour de lui, il ne le trouve pas chez Mauriac. Du moins, Mauriac
réticent.
Est un peu réticent par rapport à une forme de ferveur, de frénésie qui existe électrique un peu autour de Sangnier. Et lui est plutôt en retrait. Et puis, c'est un jeune homme aussi qui est très lecteur de Barrès. Et ce culte du moi ne va guère avec
la fraternité. Donc rappelez-nous pour nos auditeurs, Maurice Barrès.
Grand auteur de l'époque, qui est un maître à penser de la jeunesse française,
La colline éternelle.
Oui, absolument. Mmh. Et qui, dans ses œuvres, exalte le moi contre une forme de fraternité humaine. Et Mauriac, qui a toujours senti chez les autres plus d'altérité que de mimétisme de soi, se trouve très à l'aise avec cette conception du monde, puisqu'il lui donne raison contre les autres.
Isabelle de Gouvernin-Lacroix.
Ce que vous montrez très bien, c'est que quand Marc Sangnier va être à son tour crossé par Rome...
En 1910, oui.
Voilà, ça va être quand même assez dur. François Mauriac va prendre sa défense. Et là, je trouve que le débat de Mauriac avec l'Église est assez intéressant.
Oui, en effet.
Philippe d'Azébrun.
Lorsque Mauriac reste très peu au sillon, mais lorsqu'il le quitte, il reste quelque chose. Il reste quelque chose même qui va demeurer jusqu'à la fin de sa vie. Mmh. C'est-à-dire cette mauvaise conscience que la bourgeoisie peut avoir à l'égard d'un monde qu'elle a méprisé.
C'est
qu'elle
une flamme compter. Ou c'est une mauvaise conscience ?
Je crois que ce sont les deux.
Oui.
Mauriac nourrissait beaucoup une forme de culpabilité. Et il y a chez lui à la fois... cette mauvaise conscience, mais cette flamme aussi, parce que on le voit très bien à la fin de la vie de Sangnier, cette fidélité reste là, c'est-à-dire que il lui donne, n'est-ce pas, la cravate de la Légion d'honneur et lui dit toute la dette.
En 1946,
absolument.
C'est-à-dire un demi-siècle plus tard.
Oui, dans un moment où les démocrates chrétiens arrivent au pouvoir avec le MRP et où toute une génération, je dirais, biberonnée au sillon arrive au gouvernement.
Arrive à réémerger, c'est ça ?
C'est ça.
Alors, la vie de Mauriac se poursuit. Il est jeune étudiant. Il s'installe au fameux foyer tenu par les maristes au 104 de la rue de Vaugirard à Paris. Et vous décrivez cet épisode où Mauriac se fait, je vous cite, « expulser par les maurassiens ». Et voici ce qu'en dit François Mauriac. « Ils ont une façon de défendre la famille, la religion et la propriété qui donnerait au pape lui-même l'envie de saper cette auguste trinité ». François Mauriac était donc un dangereux gauchiste, Philippe d'Azébrun.
C'est comme ça, en tout cas, que ses camarades du 104 le considéraient. Mmh. Et effectivement, 8 d'entre eux ont fait pression auprès du père qui dirigeait la pension pour qu'il soit expulsé.
Ce qui fut le cas,
mais il est revenu par la fenêtre. On l'expulse par la porte, mais il revient par la fenêtre en devenant président des étudiants qui fréquentaient le cercle du 104. Et là encore, il devient président contre la pression des maurassiens.
Donc on voit toujours cette tension. Enfin, cet homme, avec le feu qui l'anime, n'est pas véritablement à l'aise dans le milieu, disons, traditionnel de l'Église.
Oui, c'est toujours quelqu'un qui est en marge.
C'est ça.
Qui cherche... En fait, je pense que c'est un authentique chrétien dans le sens où il cherche le Christ dans l'altérité, finalement. Mmh. Et dans l'autre, celui qu'il ne connaît pas. Parce que tous ceux qui l'ont mis un peu à la porte, il les connaissait.
Il appartenait
à un milieu.
Il lui ressemble.
Absolument, tout à fait. Y compris dans sa propre famille. Donc, et pour revenir, je dirais, à sa famille, il faut dire qu'elle est baignée de deux courants. Hein. Vous avez le courant catholique qu'incarne bien sa mère, pas très républicain, mais pas pour autant monarchiste.
Oui.
Et puis le courant paternel, qui est très républicain, Dreyfusard. Mmh. Le père meurt quand il n'a que 20 mois, mais son oncle, lui, le tuteur, est là pour garder le trésor républicain auprès des enfants Mauriac.
Et ce sont des tensions qu'on peut retrouver dans bon nombre de familles catholiques de l'époque.
En effet.
C'est assez significatif. Florian Michel, vous êtes historien de l'Église. Quel regard vous portez sur ces premières années de Mauriac?
Je découvre, en fait, à vrai dire. Donc, je suis très heureux de la publication de cette la biographie. Il manquait, en fait, une bonne biographie de François Mauriac.
Dont je rappelle le titre, Mauriac dans l'Église catholique, la fidélité aux aguesses aux éditions du Cerf. Voilà.
Et je dois dire, très, très intéressé par ce passage par le Sillon, par ses premiers faits d'armes contre l'Action française, par ces tensions étudiantes qui vont traverser finalement toute son existence, et également par la violence que cela représente, à la fois sur le plan verbal, mais j'imagine aussi dans les couloirs du 104, ça devait être quelque chose, je veux dire, sur le plan politique et sur le plan des relations entre étudiants.
C'est une bonne chose de se rappeler que le bénitier catholique n'a pas toujours été calme, justement, et que
il n'a jamais été calme. Et moi, je serais assez de l'école qui pense que toutes les tensions sont bonnes, au sens où on existe aussi et on avance.
C'est une preuve de vie, c'est ça?
C'est une preuve de vie et en même temps, c'est un affinement successif des objets d'études et des débats.
Isabelle de Gaulmin-Lacroix.
Oui, ce qui m'a fasciné dans cette biographie de Mauriac, c'est qu'on voit que déjà, quand même, le constat, c'est que l'Église est en train de perdre perdre le peuple. En tout cas, il y a une déchristianisation. Alors que les chiffres que vous donnez, par exemple, des manifestations de la JOC et tout ça, on aimerait bien avoir ça aujourd'hui.
En 1937, des centaines de milliers de personnes ont été rassemblées.
Mais il y a déjà cette espèce de crainte de la disparition de l'Église et qui provoque ce débat, parce qu'à chaque fois c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper le peuple, qu'est-ce qu'on peut faire pour être quand même en accord avec la modernité, etc. Donc on est quand même toujours un peu là-dedans aujourd'hui, je trouve.
Philippe d'Azébrun, vous sentez cette analogie contemporaine?
Oui, mais je crois que l'espace, autant au début du siècle, l'espace était bien circonscrit, c'était le milieu ouvrier, autant aujourd'hui nous sommes là sur de vastes étendues.
Oui.
Et il n'y a plus de cible bien précise, c'est ça qui est le problème.
Voilà. Alors, continuons cette conversation et cette promenade autour de l'itinéraire spirituel et littéraire de François Mauriac, grâce à vous, Philippe d'Azébrun. Nous arrivons en 1934-37 autour d'une revue qui a laissé une trace importante, qui s'intitulait la revue 7, qui était publiée par les Dominicains et à laquelle a contribué François Mauriac. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots de quoi s'agit-il ?
Oui, alors il faut reprendre l'itinéraire de Mauriac après la Première Guerre mondiale. Voilà. Mauriac est d'abord, après la guerre, verse plutôt du côté nationaliste. Barrès reste encore là auprès de lui. Et il y a tout un cheminement de Mauriac qui fait qu'en 1934-35, il bascule d'un autre côté. Donc il devient le grand auteur catholique qui rencontre un public en 1922 avec Le baiser aux lépreux. Mmh. Il est élu à l'Académie française en 1933 par une frange, je dirais, conservatrice de l'Académie. Et il incarne vraiment cette aile droite du catholicisme à l'époque. Et puis en 1934, effectivement, 1935, la montée des nationalismes à l'étranger le bouscule beaucoup, et notamment ce qu'il voit en Italie.
Mais pas en Allemagne.
Pas en Allemagne, oui. Il n'est pas allé en Allemagne.
D'accord.
Mais il va en Italie, il suit là pendant quelques jours, pendant un voyage, le président Laval, qui était président du Conseil à l'époque, ministre des Affaires étrangères, président du Conseil, et il se rend compte que l'Italie qu'il avait vue quelques décennies plus tôt n'est plus la même.
Mmh. Et même l'Italie de Mussolini.
Voilà, même s'il est un peu fasciné par le personnage Mussolini, par Pacelli, futur P12 qu'il rencontre à cette occasion, il reste quand même assez réticent par rapport à ce qu'il ressent de la population italienne un peu plus corsetée qu'il ne la connaissait.
Mmh. Et ça l'inquiète.
Oui, beaucoup. Oui. Et en 1935 s'opère aussi autre chose, c'est l'invasion par les troupes italiennes de l'Éthiopie, sous prétexte de civilisation, et on le voit là, s'indigner fortement d'un dessin de Sénèpe qui illustrait le négus sur un arbre à côté des singes. Mmh. Et cette Mauriac a toujours eu en lui une révolte profonde contre tous les racismes, et l'antisémitisme en particulier. Ce qui fait que là, il y avait
quelque chose qui n'était pas évident dans son milieu d'origine.
Absolument. Et si bien qu'au tournant des années 30, vous voyez, 35, 30, s'opère une mutation chez lui qui fait qu'il entre dans Sept, qui est ce journal dominicain,
oui,
plutôt progressiste, progressivement.
Mmh.
Et quand il y rentre pleinement, on peut dire qu'il a là vraiment basculé du côté des chrétiens dits rouges. Que l'on dira
philo-communiste peut-être, oui. Non,
puisque cette revue
était accusée par la presse de droite.
Absolument.
Écrivez-vous, Philippe Dazébrin, d'être philo-communiste. La preuve en est qu'elle a publié une interview de Léon Blum signée de Maurice Schumann.
Schumann, oui, absolument.
Voilà, c'est des choses qu'on a oubliées, ce type de télescopage. Maurice Schumann qui fut ensuite ministre des Affaires étrangères de Gaulle et porte-parole de la France libre sur la BBC.
Absolument. La rédaction a essayé de tenir, n'est-ce pas, deux tendances, hein. Mais Mauriac, avec le recul, verra dans cette et dans Temps présent après, qui va le poursuivre, une aventure dans le centre-gauche des chrétiens.
Alors, cette aventure se termine mal, puisque la revue 7 est contrainte de se saborder en 1937 sous la pression vaticane, c'est bien ça, Philippe Dazébrin ?
Oui, c'est exactement ça.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il y a eu, je dirais, quelques enquêtes menées par le Vatican, et surtout, l'ordre des Dominicains était trop impliqué dans les questions politiques, grâce ou à cause de 7, pour ne pas y laisser quelques plumes supplémentaires. Ce qui fait que le Vatican a voulu faire arrêter cette expérience. Et Temps présent prend la suite avec une rédaction de laïcs.
Oui.
Mais bien évidemment, les dominicains sont un peu derrière.
Sont présents. Alors Temps présent, François Mauriac va également y participer.
Mm-hmm. Oui.
Plutôt en réaction à la Nouvelle Revue française, si je vous ai bien lu, Philippe Dazébrin.
Ah non, ça c'est plutôt, oui. C'est plutôt Vigile.
Oui, ah pardon.
C'est
oui.
Plutôt Vigile.
C'est une autre revue.
C'est une autre revue qu'il crée avec quelques autres personnages, dont Charles Dubos et l'abbé Alterman, qui, en réaction à la Nouvelle Revue française en effet, parce qu'il considérait que le monopole de la Nouvelle Revue française sur la littérature devait trouver un contrepoids chrétien.
Et il écrivait, je vous cite à nouveau Philippe Dazébrin, « Chaque numéro de la Nouvelle Revue française soufflette Jésus ».
Oui.
C'est une jolie expression. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement ?
L'absence du Christ dans la Nouvelle Revue Française. La Nouvelle Revue Française n'était pas très... était dirigée par Gide à l'époque, par quelques autres, donc n'avait pas une propension à donner la première place au Christ, et Claudel s'en plaignait.
Mmh. Voilà, donc on est dans une période entre les deux guerres, de débats politiques, de débats spirituels et de débats intra-ecclésiales. Florian Michel, ces débats étaient vifs à l'époque.
Les débats étaient très vifs, mais peut-être au sujet de la revue 7, effectivement, la polémique a retenu cette appellation de revue rouge chrétienne. Mmh. Évidemment, c'est là de la polémique. Ce ne sont en aucune façon des rouges chrétiens, ils ne sont pas marxistes. Mmh. Et effectivement, il y a un désir d'ouverture et de recentrement, en fait, d'une partie du catholicisme. Mais les fondateurs de 7, ce sont des dominicains qui sont quand même... très sage sur le plan politique, pour les laïcs, c'est des gens comme Jacques Maritain ou comme Étienne Gilson qui signe un article quasiment dans tous les premiers numéros de la revue 7 pendant presque 2 ans. Donc on est très très loin d'une révolution catholique, mais effectivement les forces qui travaillent le catholicisme d'alors sont d'une telle puissance ça emporte cette position médiane.
C'est exactement les forces qui travaillent le catholicisme.
Et en interne, je veux dire sur le plan du catholicisme français, autant que dans les questions de relations internationales et la question éthiopienne, la question espagnole plus encore, et ce sont des terrains explosifs en fait pour les catholiques.
Si je me souviens bien aussi, le jeune, il devait être capitaine, à l'époque Charles de Gaulle était abonné à 7 et à temps présent. C'était un élément de formation intellectuelle. Isabelle de Gaulemin à la Croix.
Oui, est-ce qu'il y a la même vivacité dans le débat laïque ailleurs qu'en France, en Italie, en Allemagne? Alors évidemment, il y avait la montée du nazisme et de Mussolini.
En Allemagne, l'affaire est réglée, puisqu'au fond, c'est quand même la nuit des longs couteaux qui évince dès 1934 toute l'élite catholique intellectuelle du pays. Et ceux qui réchappent à cette nuit des longs couteaux partent en France, aux États-Unis, enfin émigrent autant que possible. Pour l'Espagne, il y a quelques laïcs qui interviennent dans les débats, notamment des ministres du Pays Basque, et souvent ils finissent en émigration également. Pour l'Italie...
C'était l'Espagne de Franco, il faut le rappeler.
Et c'est l'Espagne de la guerre civile.
Oui, de la guerre civile.
Avant que d'être celle de Franco. Oui. Et quant à l'Italie, Don Sturzo, par exemple, qui n'est pas un laïc, évidemment, mais qui émigre assez vite, il ne peut pas subsister.
Et finalement, le débat catholique, il est en France.
Le débat catholique est en France, définitivement.
Intéressant. Oui.
Les racines du présent, RCF.
Les racines du présent, aujourd'hui, notre thème d'hier à aujourd'hui, comment vivre et croire en liberté au sein de l'Église catholique. Et nous retraçons l'itinéraire spirituel et politique aussi de François Mauriac grâce à la biographie spirituelle que vient de publier Philippe Dazébrun, qui est à notre micro. Une biographie spirituelle intitulée « Mauriac dans l'Église catholique » ou « La fidélité aux aguets ». Nous sommes également en compagnie de Florian Michel, qui a contribué à la publication d'un livre passionnant dont nous reparlerons dans quelques instants, signé de Hélène Isfolsky, « Au temps de la lumière », qui se situe également dans cet entre-deux-guerres au sein de l'Église de France. Et nous sommes également en compagnie de Isabelle de Gaulemin, rédactrice en chef au quotidien La Croix. Alors Philippe Dazébrun, nous poursuivons notre itinéraire sur les traces de François Mauriac. François Mauriac ensuite a soutenu la mission de France et l'œuvre des prêtres ouvriers. C'était un univers qui n'était absolument pas familier de son origine, de sa formation. Qu'est-ce qui fait que Mauriac a apporté un regard positif sur cette initiative?
Là encore, il y a une fidélité à une sensibilité qui est celle de la mission auprès des milieux qui sont déchristianisés. Il y a aussi le mandement de carême de l'archevêque de Paris.
Rappelez-nous.
Suard, qui avait écrit en 1947 un texte qui l'enthousiasme vraiment. Du reste, il n'est pas le seul. Étienne Gilson fut aussi extrêmement touché par ce texte, où le cardinal Suard montre combien les zones les plus déshéritées de la société française sont affamées de Dieu et on ne leur apporte aucune solution qui soit novatrice. Et l'expérience de la guerre permet à certains de trouver des solutions novatrices parce qu'ils ont été, pour certains, ou bien déportés, ou bien prisonniers. Et pour ces prêtres-là, connu l'expérience de messe totalement, absolument pas du tout conforme au rite usuel.
C'est ce qu'on a appelé les messes dialoguées. Est-ce que c'est à ça que vous faites allusion,
Philippe Dazébrun? Ont commencé dans les années 30. Mais disons que tout le décorum auquel on était habitué avait complètement disparu lorsqu'on était dans un baraquement prisonnier.
Dans un stalag ou dans un oflag, voilà.
Et donc ces prêtres-là ont connu une telle fraternité avec leur co-détenu que, revenant en France, ils ont voulu préserver cette fraternité et la poursuivre en s'immergeant, en quelque sorte, dans le monde ouvrier.
Donc ce furent les débuts de la Mission de France.
Et Mauriac est très sensible à toutes les innovations. Il a un peu accompagné tout cela. Et d'autre part, il est toujours taraudé par l'idée que la France perd la foi. Et ces expériences-là, il faut les mener, il faut les tenter. Mais il y met une condition à laquelle il sera toujours attaché. C'est que le prêtre ne perde pas de vue le sacerdoce.
Alors là, on touche quelque chose d'absolument central. C'est-à-dire que, si je vous ai bien lu, Philippe Dazébrun, si cette initiative a ensuite été crossée par Rome, c'était en raison des craintes autour de l'altération du statut du prêtre. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui, Isabelle de Gaulman nous le dira, à propos du débat sur les suites à donner au rapport de la CIAS sur les abus sexuels. C'est quel est le statut du prêtre au sein de la communauté? Et la question se posait déjà à cette époque-là.
Absolument, parce que voilà des hommes qui... ils ont un modèle. C'est Matteo Ricci.
Le jésuite.
Le jésuite qui, au XVIIe siècle, entre en Chine et se fait chinois. Et essaie de trouver les modulations du dialogue entre cette culture étrangère et celle en laquelle il a foi. Et donc ces prêtres qui s'immergent dans le monde ouvrier s'immergent pleinement dans une forme d'étrangeté finalement, parce que voilà des hommes qui ne sont pas formés à cela, qui n'ont pas la carrure pour ça, qui ne sont pas habillés de la même façon, vont devoir s'immerger et même prolonger l'immersion jusqu'à la syndicalisation, jusqu'à des luttes politiques.
Et au risque de perdre leur statut sacré, leur statut enseignant.
C'est ce que, en tout cas, Mauriac a compris pour certains.
Oui.
Mais d'autre part, lorsqu'il y a une forme d'incarnation du prêtre ouvrier, car il en connut certains, il est en totale sympathie.
Donc il est écartelé.
Absolument.
Oui. Isabelle de Gaulman à la Croix.
Il est écartelé comme tout le catholicisme français, je pense, de l'époque. Oui. Peut-être qu'il faut se souvenir aussi qu'il y a eu... Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de séminaristes que dans les années 45-50. Donc, ça vient, cette histoire des prêtres ouvriers, avec un espèce d'enthousiasme pour le sacerdoce. Beaucoup de jeunes garçons, après la guerre, ont voulu devenir prêtres, et sans doute animés par ce désir, parler aussi d'intégralisme, enfin d'être complètement en phase avec la société. Et c'est pour ça que le réveil a été d'autant plus brutal, il me semble.
Oui, tout à fait. En fait, c'est un clergé qui cherche de nouvelles orientations pour être pleinement compris dans ces dimensions. Mais bon, pour les prêtres ouvriers, ça n'a pas touché plus d'une centaine de personnes quand même.
Non, mais en termes de bruit, enfin de bruit...
Ah oui, de retentissement.
Des retentissement universel.
Voilà,
incroyable,
c'est ça.
Universel. Et ça venait de la France. Et
c'était l'époque où l'Église de France était au centre du débat universel, il faut se le rappeler aussi. Alors on en vient à cette époque qui a précédé Vatican II. Je ne résiste pas à la saveur d'une citation que vous faites, Philippe Dazébrun, dans votre biographie spirituelle Mauriac dans l'Église catholique, où La fidélité aux aguets s'est publiée au CERF. Vous citez une lettre signée de François Mauriac à Henri Guillemin le 24 octobre 1953. Et on voit dans quels termes François Mauriac juge les responsables du Vatican, je cite, « Quels imbéciles, ils ne contrôlent que des organes de néant et l'énorme torrent de la vie roule au-dessus de leur sape de taupe et le Christ est attaché par eux, non pas à un gibet, mais à un vieux carrosse brinque-ballant de cardinaux autogénaires. » Quelle écriture!
Oui, ça, il a toujours été toujours génial sur le plan de la plume.
Oui.
Et puis, vous le voyez, une très grande sévérité.
Hein. C'est ça.
On comprend là toute l'ampleur de la liberté qui était la sienne. Néanmoins, il s'agit d'une correspondance privée.
Oui, naturellement, il faut le rappeler.
Il faut le rappeler. Cela, oui, oui. Effectivement, sur une tribune publique, voilà. et même en privé, il disait, pour l'affaire des prêtres ouvriers, maintenant je me tais parce que j'ai 68 ans et je ne veux pas mourir sans curé. Donc on voyait bien
voilà.
que...
Et on sent cette tension entre obéir ou résister, c'est vraiment une tension consubstantielle, si j'ose dire, à François Mauriac.
Oui, mais c'est une tension de vie.
Oui.
C'est une tension de vie. Sans cela, il n'y a pas de vie.
Isabelle de Gaulmin, la croix.
Il fait partie de ces catholiques qui ne sont jamais partis. C'est intéressant de se dire qu'il y a souvent eu ces débats chez les intellectuels et beaucoup sont partis de l'Église. Et lui, il est resté, comme un certain nombre d'autres grands catholiques.
Et il disait, l'Église est le port unique. Il disait, je suis un vieux zouave pontifical.
Oui, c'est d'où la fidélité.
D'où la fidélité.
Oui, car en effet, toute cette aile, je dirais, marchande de l'Église s'est perdue dans les sables, n'est-ce pas, d'engagement ailleurs que dans l'Église. C'est vrai.
Florian Michel, quel regard vous portez, vous qui êtes historien
Moi, je suis très intéressé par la citation avancée par Philippe Dazébran. Ça évoquait en moi une correspondance que reçoit Maritain pendant le temps de la Seconde Guerre mondiale, où un de ses bons amis lui écrit qu'au fond, il règne dans l'Église l'harmonie d'un dancing bar, donc l'harmonie d'une boîte de nuit, et il en peut plus. C'est Yves Simon qui, à ce moment-là, aux États-Unis, donc un philosophe proche de Maritain, qui essaie depuis les États-Unis animer un peu les réseaux de résistance, et il est effondré de voir au fond les compromissions d'un certain nombre d'évêques, d'un certain nombre de clercs, du côté évidemment de
l'État français.
De l'État français, mais aussi du côté de l'Axe, dans les pays d'Europe centrale. Mmh. Et en même temps, de l'autre côté, il en a bien conscience qu'un certain nombre de clercs sont très engagés dans la résistance, l'amiral d'Argentlieu, enfin on va pas refaire tous les grands noms de cette histoire-là, mais donc l'harmonie voilà, d'une boîte de nuit.
L'harmonie d'une boîte de nuit. Une drôle d'expression.
Drôle d'expression.
Alors, Vatican II, Philippe Dazébran, comment est-ce que François Mauriac a vécu ce concile? On peut imaginer que le fait que l'Église ne condamnait plus le monde, n'entendait plus le gouverner, ça l'a ravi. Mais en même temps, il y a des choses qu'il a regrettées dans ce grand bouleversement de Vatican II, Philippe Dazébran.
Oui, au départ, il était très enthousiaste. Oui. Il parle d'une accélération de la grâce.
Mmh. Jolie expression.
À l'entente de la. À l'annonce du concile. Et puis, si vous voulez, le concile se déroule et finalement il intervient peu. C'est une voix qu'on attend et qui ne vient pas.
Pourquoi ?
Parce qu'il a d'autres choses à regarder.
Le concile, c'était pas rien.
Tout à fait, oui. Mais seulement, c'est une époque où le général de Gaulle arrive en place et où la guerre d'Algérie a lieu et de Gaulle. On connaît la mise en place de la Ve République et Mauriac, dans ce contexte-là, estime que de Gaulle doit être soutenu. Donc c'est une voie gaullienne.
Et Dieu sait si à l'époque c'était compliqué.
Absolument. Et surtout avec des tiraillements. Oui. Et puis nous sommes encore une fois dans un état de conflit. Mmh. Si bien que le regard de Mauriac, si attentif dans les choses de l'Église, se détourne un peu sur ses considérations plutôt françaises. Et il revient à l'Église sur deux plans. Je crois que le concile l'intéresse à deux échelles. Le premier plan, c'est l'œcuménisme.
Oui.
Et le deuxième plan, c'est la liturgie. L'œcuménisme, parce que effectivement, il est désolé de voir les frères séparés et continuellement séparés. Donc c'est un moment où ils peuvent dialoguer et il en est heureux. Mmh. Et puis la liturgie, parce qu'il la vit quotidiennement. C'est un homme de l'Eucharistie, Mauriac. Et parce que c'est le moment fondamental pour lui où il rencontre Dieu, où il rencontre le Christ. Christ est quelqu'un.
C'est une nourriture essentielle.
Tout à fait.
Lui.
D'où l'importance de Pascal dans sa spiritualité. Et donc les changements liturgiques vont le faire, je dirais, évoluer. D'où sa prise de position dans les débats post-conciliaires, où il passe pour un conservateur, voire un réactionnaire, parce que toutes les expériences liturgiques qui ont lieu le chagrinent beaucoup.
Oui, ça l'agace un peu quand même.
Ouais. Il craint de perdre là, je dirais, une dimension sacrée, mais je crois que plus que cela, il perd le témoin de sa propre histoire.
C'est ça.
Le témoin de son enfance par laquelle il retrouvait ses morts.
C'était la liturgie de son enfance.
Absolument, avec lesquels il dialoguait.
Voilà. Isabelle de Gaulmin à la croix.
Oui, et c'est tellement semblable à ce à ce qu'ont ressenti à l'époque beaucoup, beaucoup de Français, en fait. Hein. Une forme d'opposition à Vatican II, c'était sur la liturgie, et simplement parce que les gens, enfin, c'est très beau ce que vous avez dit, ils perdaient leur propre histoire, finalement. Mmh. Et ça explique beaucoup. Et d'où l'intérêt de ne pas faire des réformes liturgiques trop, trop brutales. Et c'est vrai que ce qui s'est passé dans les années 70 en France, ça a été quand même assez... On va dire un peu olé-olé, quoi, sur la liturgie.
Mais en même temps, en 1968, je vous cite à nouveau Philippe d'Azébrun, François Mauriac écrivait « Entre la condamnation du modernisme et du sillon de mon adolescence et la condamnation des prêtres ouvriers de ma vieillesse, je n'ai jamais reçu de l'Église que la réprobation de tout ce qui m'était cher et de tout ce que je croyais, au fond, le véritable christianisme. » C'est le fond de la position de François Mauriac.
Oui, elle est là.
Oui, elle est là.
Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il avait des audaces. Et ces audaces ont toujours été contrariées par l'Église. Mais au fond, lorsque certaines expériences ont été un peu trop audacieuses à ses yeux, où l'on perdait un sens de Dieu, finalement, il revenait à l'essentiel, et finalement à ce qui l'arrimait à l'Évangile.
Alors, qu'est-ce qui l'arrimait à l'Évangile, au fond, Philippe d'Azébrun ?
Le fait que le Christ était l'essentiel. Mmh. Il était venu avec une parole. Cette parole, il fallait la suivre. Le reste importait peu, pourvu qu'on ne se coupe pas de l'Évangile et de ce que le Christ amène aux hommes.
Le secret du christianisme, c'est l'échec créateur, a-t-il écrit.
Ah oui.
Voilà une très belle phrase.
Ah oui, tout à fait. Pour lui, effectivement, la croix n'était pas l'échec. Ce qui fait qu'il a toujours pensé que le péché contre l'esprit, c'était le désespoir ou la désespérance. Parce que la croix était bien le signe d'une forme de désespoir. Le Messie est cloué sur cette croix. Il n'empêche qu'il ressuscite 3 jours après.
Voilà.
Et le christianisme s'épand sur le monde.
Ne pas en rester au Vendredi Saint.
Absolument.
Je voudrais à nouveau citer François Mauriac, Philippe d'Azébrun. En 1943, il écrivait « Ce qui a les promesses d'éternité subsistera ». Il parlait de l'Église, évidemment. « Et si le reste doit s'écrouler autant que nous l'avons aimé, nous ne devrons pas lui donner une larme ». Autrement dit, seul subsistera l'essentiel de la foi.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait. Et c'est en cela qu'on voit l'irréductibilité du croyant et l'irréductibilité de l'espérance de Mauriac.
Une espérance fondamentale.
Tout à fait fondamentale.
Les racines du présent. RCF.
Aujourd'hui, les racines du présent, d'autres thèmes. D'hier à aujourd'hui, comment vivre et croire en liberté au sein de l'Église catholique? Nous venons de retracer à grands traits, évidemment à trop grands traits, l'itinéraire spirituel de François Mauriac. Je recommande la lecture de cette biographie spirituelle, donc signée Philippe d'Azébrun, Mauriac dans l'Église catholique ou La fidélité aux aguets. C'est publié aux éditions du Cerf. Nous sommes également en compagnie de Isabelle de Gaulmin, rédactrice en chef à La Croix. Et nous en venons maintenant à un petit livre tout à fait étonnant qui est publié aux éditions Salvator. Il est signé de Hélène Isfolsky. Il est intitulé « Au temps de la lumière ». Et Florent Michel, vous êtes historien et vous êtes l'un de ceux qui a contribué à l'édition ou à la réédition, c'est bien ça?
Exactement.
De ce document. Alors, peut-être en deux mots pour rappeler qui était Hélène Isfolsky. Elle est née en Allemagne en 1897. Elle a été ballottée sur les routes de l'Europe et du monde au gré des nominations diplomatiques de son père, qui fut le ministre des Affaires étrangères du tsar Nicolas II, qui a représenté le tsar auprès du pape Léon XIII et puis à la cour impériale de Tokyo à Paris. La mère de Hélène Isfolsky était une aristocrate luthérienne allemande de la Baltique. On voit toute l'Europe là qui existe sous nos yeux. Alors évidemment, la vie de votre héroïne Hélène Isfolsky a été bouleversée par la révolution de 1917. Elle s'engage comme infirmière à la Croix-Rouge. Elle suit des cours à Paris à la Sorbonne. Elle devient écrivain, femme de foi et pionnière de l'œcuménisme. Elle va ensuite se convertir au catholicisme à l'abbaye bénédictine de Sainte-Scolastique où elle deviendra oblate de Saint-Benoît. Quel itinéraire, Florian Michel?
C'est un itinéraire absolument incroyable et je suis vraiment très heureux de pouvoir vous présenter cette figure totalement oubliée. Hélène Isfolsky, effectivement, le livre n'avait jamais été édité en France. Mmh. Il a été publié en anglais aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale en 1942 dans une collection éditoriale dirigée par Jacques Maritain. Et le livre a été traduit à Montréal en 1945 par des amis de Maritain, mais le livre n'a jamais été
Donc c'est une première en France.
C'est une première en France et son itinéraire est absolument incroyable. Effectivement, on parcourt toute la planète en fait.
Voilà, toute la planète, première moitié du XXe siècle spirituel.
Et est en fait la fille d'Alexandre Izvolsky, donc ministre, vous l'avez dit, du tsar Nicolas II, ministre des Affaires étrangères, et le dernier ambassadeur du tsar à Paris au moment de la Révolution. Donc elle est à Paris en 1917. Et c'est une figure extrêmement dynamique, extrêmement généreuse, extrêmement vive, très attentive aussi à ce qui l'entoure.
Cette femme est manifestement une surdouée quand on la lit.
Surdouée, oui.
Comment on dirait aujourd'hui.
Oui, non, effectivement, sa mère ne le dirait pas exactement en ces termes. En tout cas, elle écrit à un de ses amis combien elle est dynamique et engagée, désireuse. Faut imaginer la ruine de la famille Izvolsky en 1917-1919. Il faut toutes les ressources de chacun pour que, malgré tout, la famille puisse être maintenue à flot. Le père décède très vite au lendemain de la Révolution. La famille s'installe à Pau pendant quelques temps, où il y a un foyer russe, en fait, assez dynamique depuis le 19e siècle. Et effectivement, Hélène Izvolsky va suivre des cours en Sorbonne, un cours d'histoire des relations internationales et de droit. Et elle va rencontrer un certain nombre de directeurs de revues.
Elle va participer à cette vie intellectuelle et spirituelle que nous venons d'évoquer.
Exactement.
François Mauriac, puisqu'on retrouve au fil de ce texte, au temps de la Lumière, on retrouve l'Action française, Maurras, Marc Sangnier, Le Sillon, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier. Alors, et toutes ces questions débattues autour du communisme et du nazisme naissant et triomphant. C'est ça qui vit à travers
la grande singularité d'Hélène Izvolsky, c'est d'abord évidemment que c'est une femme. Mm-hmm. Et c'est une femme russe convertie de l'orthodoxie. Son père était orthodoxe, sa mère luthérienne. Et en fait, elle va rencontrer à l'abbaye de Sainte-Scolastique quelques religieuses russes d'origine, elle-même convertie. Un dialogue va se nouer et on retrouvera là des thèmes très, très,
par
très
exemple,
proches. La question de la fidélité.
Oui.
Comment maintenir une fidélité à l'égard de la Russie, malgré la Révolution, malgré toutes les souffrances que connaît à ce moment-là l'Église orthodoxe. Et le pont, si je puis dire, se fait notamment par les saints du premier millénaire, saint Benoît, saint Odile, saint Olga, saint Geneviève. Voilà autant d'éléments qui vont nourrir la spiritualité.
Et puis avec cette grande question relative à l'orthodoxie russe, c'est pour Hélène Izvolsky, qui est convertie donc au catholicisme, comment être catholique sans être soupçonné de traîtrise et de se latiniser détriment de l'orthodoxie russe.
On observe au lendemain de la Première Guerre mondiale le développement de la liturgie catholique de rite oriental sur le territoire français. Il y a un séminaire dominicain qui va former un certain nombre de religieux dominicains, qui va développer des revues, qui va développer tout un apostolat auprès de la population.
Voilà, c'est l'un des éléments de cette vitalité de l'époque.
Russe, mais qui ne change pas de liturgie, en fait, sur un plan, si vous voulez, sur un plan linguistique.
Alors,
elle ne devient pas latine.
Voilà. La question qui nous préoccupe, Florian Michel, c'est donc quel regard porte cette personnalité hors du commun que vous venez de décrire, Hélène Izvolsky, quel regard porte-t-elle sur cette effervescence spirituelle et intellectuelle de l'entre-deux-guerres en France ?
En fait, elle est fascinée.
Oui.
Elle est vraiment à la fois partie prenante, mais elle est totalement subjuguée par tous les auteurs qu'elle découvre. Alors, dans les années 20, c'est plutôt la littérature. Elle travaille plutôt avec des Paul Valéry, dans la revue Commerce, ou ce genre de milieu. Et son horizon, si je puis dire, intellectuel, évolue très sensiblement à la fin des années 20, quand elle rencontre Charles Dubos, qui lui donne de rencontrer tout le milieu de la revue Vigile, dont il a été question précédemment.
Qu'on a évoqué tout à l'heure, oui.
Et elle va rencontrer, grâce à Charles Dubos, Jacques Maritain. De ce fait, elle va rencontrer le milieu de la revue Esprit, puis Nicolas Berdiaev. Et elle va être amenée à travailler dans les années 30 pour un certain nombre de grandes revues françaises, la revue Esprit, la revue Les Études. Elle va travailler également avec Seth sur un certain nombre d'articles pour présenter, en fait, la Russie communiste, pour présenter le monde de l'orthodoxie, pour essayer de proposer une lecture autre que celle des Russes blancs demeurés à Paris après la guerre, et de la propagande soviétique qui martèle en fait à Paris.
Voilà, elle reste fidèle à cette âme russe qui est la sienne fondamentalement. Alors, ce qui frappe également à la lecture de ce texte, c'est le regard que porte Hélène Isvolsky sur cette jeunesse française qui, écrit-elle, à la suite de Peggy et de Maritain, s'est rebellée contre l'athéisme, le scientisme et le positivisme.
Et le capitalisme.
Et le capitalisme.
Oui, tout à fait, c'est un point important. Oui. C'est un point important pour elle. C'est que vraiment, par son itinéraire, elle est très peu cléricale en un sens. Elle reçoit pleinement les encycliques du pape Pie XI, et notamment Quadragesimo Anno, donc qui marque la mémoire de la première encyclique sociale de Léon XIII. Nationaliste, évidemment, elle ne peut pas l'être. Elle a bien vu les dégâts pendant la Première Guerre mondiale. Capitaliste, elle sait bien aussi, par l'itinéraire familial, tout ce que la propriété paysanne a subi en Russie.
Oui, elle a été dévastée par la Révolution.
Dévastée. Et c'est vrai que c'est vraiment une figure intermédiaire, en quelque sorte, dans ce jeu des idéologies, et qui propose donc une relecture à la fois critique et assez décoiffante sur un certain nombre de points.
Est-ce que l'itinéraire de Hélène Isvolsky a croisé une fois ou l'autre celui de François Mauriac?
Alors, je pense qu'ils se rencontrent dans la revue Vigile et également dans le petit journal 7, l'hebdomadaire 7. Voilà, mais je ne crois pas qu'il y ait de correspondance entre les deux.
Non, Philippe Dazébrun. Vous aviez entendu parler, Philippe Dazébrun, de Hélène Isvolsky?
Jamais.
Voilà.
Écoutez,
je suis heureux de vous réunir. Oui. Parce que là, il y a un regard tout à fait original, justement, sur cette effervescence catholique de l'entre-deux-guerres. Isabelle de Gaulle-Malacroix.
Oui, peut-être dire qu'il y a un peu une tradition aussi, comme ça, de femmes russes dans le communisme. Parce que moi, je pense à Elisabeth Bersiguel.
Oui, c'est vrai.
Qui se situe exactement dans cette lignée-là, un peu après. Et donc, il y a quelque chose autour de femmes chrétiennes, œcuménisme et russes. Et après, il y a eu tout le travail de l'Institut Saint-Serge qui a fait là-dessus pour ouvrir et l'Église catholique à l'œcuménisme et l'Église orthodoxe aussi à l'œcuménisme. C'est intéressant que ça soit venu beaucoup par des femmes.
Oui, c'est juste.
Il faut le rappeler.
C'est vrai.
Je le rappelle.
Oui. Philippe Dazébrun, il faut rappeler également l'importance, on l'a déjà souligné, mais des dominicains rue de la Tour-Maubourg, ces revues. Cet en présent, ce sont des revues qui ont focalisé beaucoup de créativité, de qualité de pensée.
Oui, il y avait un bouillonnement extraordinaire, éditorial surtout. Éditorial par des revues, les éditions du Cerf qui sont créées à ce moment-là, et toutes les feuilles qui sont associées. Alors Mauriac, effectivement, est très ami avec certains dominicains, notamment le père Médieu. Mais il est vrai que à la fin de sa vie, les dominicains qu'il appelle les pères Boutefeu, comme Carbonel et quelques autres, ne sont pas en grâce à Malagar.
Oui. Voilà. Pour quelle raison?
Parce qu'ils prennent des positions, je dirais, ultra progressistes dans la lecture des textes conciliaires.
Voilà, toujours cette tension, cette fidélité aux aguets. Isabelle de Gaulle-Marie.
Oui, il faut dire, alors, juste une petite parenthèse, les dominicains sont allés quand même assez loin en 68 sur cette lecture très, très lutte de classe et communiste de l'évangile. Donc, on comprend que Mauriac ne soit pas tout à fait d'accord. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, c'est la preuve quand même que l'Église, elle n'a jamais à perdre au débat d'opinion. Et qu'au contraire, ce débat d'opinion l'a fait avancer, qu'il soit mené par les laïcs ou les prêtres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a aussi cette tension. On a une église qui a le sentiment que c'est les laïcs réagissent trop, qui veulent tout de suite passer à la révolution, etc. Et je trouve ça intéressant de se souvenir que dans l'histoire, l'église, elle a avancé aussi grâce à ce débat, grâce à cette opinion-là. On a besoin d'une opinion interne dans l'église, il me semble.
Philippe Dazébrun, est-ce que je peux me risquer à vous poser une question un peu, disons, uchronique? Qu'aurait dit Mauriac aujourd'hui? Quel regard aurait-il porté sur la crise des abus sexuels, sur la convocation du synode par le pape François? Est-ce que ça l'aurait réjoui? Est-ce que ça l'aurait inquiété?
Je crois que pour ce qui est des abus, ça l'aurait affligé.
Oui.
Je pense, enfin, au regard de la trajectoire de Mauriac, il aurait sans doute été, comment dirais-je, très attentif aux victimes. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux opprimés. Enfin, du côté espagnol, il regarde ceux qui sont les victimes avant toute chose, chaque fois. Donc il aurait eu ce regard d'empathie, d'abord. Il pense, notamment pour la guerre d'Algérie, il prend position dans la guerre d'Algérie.
Oui, absolument.
Et pour lui, les torturés, ce sont justement ceux qui sont le Christ.
C'est ça.
Il y a les bourreaux du Christ. Et il veille, n'est-ce pas, à ce que, quel qu'il soit, ceux qui sont les victimes soient d'abord honorés. Donc il aurait eu une pensée pour, pour eux. Il aurait aussi, je pense, fixé son regard sur le prêtre, sur le statut du prêtre.
Alors voilà,
pour lui, le prêtre...
Le cœur du débat.
Et oui, le prêtre est le Christ.
C'est ça, in persona Christi.
Absolument. Mm-hmm. Et donc le prêtre doit tendre à quelque chose de fondamental pour lui, c'est la sainteté.
Oui.
Voilà. Et il ramène toujours les prêtres à cette exigence de, cette, de sainteté. Ce qui amènerait forcément, me semble-t-il, Mauriac à être très, très attristé par les révélations que l'on a connues il y a quelques semaines.
Alors, il y a la question du statut du prêtre, mais il y a aussi la question que vient d'évoquer Isabelle de Goulmin, c'est de la place des femmes dans l'Église. Alors, je ne peux pas m'empêcher de poser à mes deux interlocuteurs ici présents. Qu'aurait dit Mauriac du vaste débat en ce moment sur la place des femmes dans l'Église, et qu'aurait dit Hélène Isfolsky, qui était une femme. Alors, Philippe d'Azébrun, qu'aurait dit Mauriac, à votre avis?
Il aurait été, je crois, il aurait été malvenu qu'il s'inquiète de la venue des femmes dans le débat public. Lui, qui, en tant que laïc, trouvait une voix dans ce débat-là. Par conséquent... je ne pense pas qu'il en aurait été chagriné. En tout cas, je suis mauriacien, mais pas mauriac, pour vous le dire.
Oui, oui, mais vous parlez en son nom.
Je n'ai pas reçu délégation.
Vous êtes un peu ici l'hologramme de François Mauriac, en quelque sorte.
Et quant à Hélène Isvolsky, et plus largement dans le milieu maritain, les femmes sont présentes, les femmes interviennent. On sait, sur un plan... historique, le rôle de Raïssa sur l'œuvre de Jacques Maritain, mais on sait également combien Raïssa a pu donner des conférences et a pu publier. Raïssa intervient en Sorbonne dans les années 30 sur un certain nombre de sujets d'actualité, publie de la poésie, publie ses mémoires. Moi, ça m'a toujours fait amuser. Le livre le plus connu des époux Maritain, c'est au fond, non pas celui de Jacques ou ceux de Jacques, mais celui de Raïssa, Les Grandes Amitiés. Et quant à Hélène Isvolsky, elle est évidemment très sensible en tant que femme à cette question-là, et elle publie dès le milieu des années 30 un ouvrage sur les femmes en Russie soviétique. Elle a des commentaires sur la revue Esprit en disant finalement toutes les femmes qu'elle a rencontrées dans le milieu Esprit ne correspondent absolument pas au cliché de la femme catholique telle qu'on peut l'observer communément, et elle conclut un petit peu en plaisantant en disant voilà, la femme aussi est une personne, et dans les milieux d'Esprit on en était absolument convaincu dès le seuil des années 30. Et c'est très intéressant son petit volume sur Femmes soviétiques, je crois que c'est le titre, 1937, où elle explique que en Russie soviétique, la femme est véritablement un des sujets, et pas simplement un objet, un sujet de l'histoire, contraignant le gouvernement de Staline à plier sur tel ou tel point la politique mise en place.
Isabelle de Goulmin, la Croix.
Ce qui est intéressant, c'est que, comme d'ailleurs toujours, en fait, l'Église, elle n'est pas du tout imperméable au monde. Et que finalement, les débats sur le féminisme qui commencent à agiter à cette époque la société occidentale, ils agitent aussi l'Église. Et contrairement, effectivement, comme vous dites, il n'y a pas un cliché de la femme catholique qui dit rien et qui passe son temps en prière et surtout ne pas être responsable. Il y a beaucoup de femmes chrétiennes et qui, à travers le christianisme, ont trouvé à s'accomplir et à prendre de l'autonomie. Et c'est ça que je trouve intéressant.
Y compris dans cette première moitié du XXe siècle que nous scrutons.
Bien sûr. Mais je crois que ce serait vraiment intéressant, du reste, de sortir des clichés et dès les années 20-30, cesser d'imaginer que les femmes catholiques sont soit mariées, soit au couvent. Il y en a un certain nombre qui se mettent aussi à fumer, qui publient dans des revues, qui participent au débat public. Alors évidemment, dans une mesure qui reste à apprécier, mais sortir en quelque sorte d'une représentation rapide, simpliste.
Et puis il y a des femmes au couvent qui sont des femmes de tête.
Oui. Alors venons-en peut-être à aujourd'hui, mais vous êtes enseignants l'un et l'autre, Florian Michel et Philippe d'Azébrun. Comment réagissent vos étudiants lorsque vous brossez le tableau de cette effervescence spirituelle, de cette créativité qui ne date pas d'aujourd'hui, Philippe d'Azébrun?
Ils sont très étonnés.
Oui.
Ils sont très étonnés parce que finalement... je ne suis pas sûr qu'ils perçoivent cela aujourd'hui dans l'Église de France. Si bien que voir des intellectuels comme Bernanos, Claudel, et quelques autres prendre part à des débats auxquels ils sont un peu étrangers aujourd'hui, ecclésiologiques, liturgiques, c'est exotique pour eux.
Exotique.
Totalement exotique.
Est-ce que ça leur donne envie eux-mêmes de s'investir ?
Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas suffisamment loin dans la conversation pour savoir s'ils sont mobilisés dans ce sens. Mais en tout cas, ça les interpelle, ça c'est certain.
Oui. Florian Michel, dans vos amphithéâtres, dans vos salles de cours,
dans les amphithéâtres, c'est un peu difficile d'apprécier la réaction des étudiants, mais de fait, je me demande parfois si, dans les années post-conciliaires, la figure de l'intellectuel catholique n'a pas disparu, et pour des raisons qu'il faudrait apprécier, est-ce qu'il y a une forme de cléricalisme post-conciliaire à travers un certain nombre de débats, parfois très techniques, mais aussi parfois dans les enceintes. Et ce cléricalisme, du point de vue intellectuel, n'existant pas avant le concile. Quelqu'un comme Maritain, quelqu'un comme Mauriac, quelqu'un comme Gilson intervenait dans la presse, effectivement, sur des sujets parfois très, très cléricaux, mais en restant laïque et en étant écouté du point de vue de leur légitimité d'enseignants, de professeurs dans les instituts catholiques
ou
à la Sorbonne.
Il y aurait eu en quelque sorte une sorte de dépérissement du laïcat, c'est ça, Florian Michel ? Peut-être.
Dépérissement, peut-être mutation.
Mutation,
en tout cas,
oui.
Et peut-être cantonnement dans certains segments de la vie ecclésiale.
Isabelle de Gaulmin, la croix.
C'est tout le danger de mettre les laïcs dans la sacristie, parce que finalement, ils ne peuvent plus réfléchir. Et effectivement, c'est exactement l'interrogation que René Raymond portait sur l'Église à la fin de sa vie. C'est que sont devenus les intellectuels catholiques ? Où sont-ils ? Et on en a besoin.
Florian Michel, vous êtes relativement jeune, il faut le dire. Nous ne sommes pas à la télévision, mais je peux le dire. Est-ce que vous voyez autour de vous se construire une nouvelle génération de...
Bien sûr, oui. Je vois une génération se construire. La question, a-t-elle accès au débat public ?
Oui.
A-t-elle accès aux médias, aux maisons d'édition ? C'est un sujet qui est parfois difficile entre nous, bien sûr, mais j'observe. Oui.
Alors nous arrivons au terme de cette passionnante conversation sur cette effervescence et cette créativité spirituelle de la première moitié du XXe siècle autour de deux personnalités, François Mauriac et Hélène Isfolsky. Je voudrais vous soumettre pour conclure cette conversation, cette dernière citation de François Mauriac, c'était en 1969, peu avant qu'il nous quitte. Il écrivait « À ceux qui me demandent si je désespère de l'Église, je réponds ce que je crois profondément, quelle est la dernière chance au monde ?» Que voulait-il dire, Philippe d'Azébrun ?
Eh bien parce que il voyait en 1969 un basculement du monde vers des horizons qui le terrifiaient.
Oui.
Un point, il n'entendait plus le rossignol chanter à Paris. Et ça a été un des premiers écologistes au sens propre du terme.
Ah oui.
Ah oui. Mm-hmm. Il était effrayé du fait qu'on entende les avions à réaction au-dessus de sa propriété.
Oui, il faut dire que sa propriété se situe, et à Weimar aussi, sa propriété se situe à Weimar, qui était dans l'axe des pistes aujourd'hui de Roissy, Charles de Gaulle. Florian Michel, cette église est le dernier espoir. La dernière chance au monde, c'est quelque chose qui vous parle ?
Oui, c'est quelque chose qui me parle. La dernière chance au monde, j'étais en train de penser sur cette question de l'écologie qu'Hélène Isvolsky n'évoque absolument pas, mais de fait, là encore, dans les milieux maritains, on observe à travers un certain nombre de peintres, de réflexions sur la nature, cette sensibilité-là. Enfin, il faudrait évidemment préciser tout cela avec plus de finesse. Hélène Isvolsky, finalement, une conception très large de ce qu'est l'Église. C'est pas Rome,
C'est ça. C'est les deux poumons.
C'est à la fois les deux poumons. Oui. C'est en même temps les saints qui font avancer l'Église. Et sur cette question des abus sexuels, on a évidemment très peu de temps pour en parler. Mais quelqu'un comme Maritain, comme Hélène Isvolsky, attentif aux victimes, c'est vrai. Attentif finalement à tous les. Enfin, sont conscients de ces enjeux-là. Pardon.
Isabelle de Gaulmin, cette conception large de l'Église, c'est ce qui va la sauver ?
Ça va la sauver. En tout cas, elle a de la chance d'avoir des laïcs qui tiennent à elle, au point de souffrir, mais de rester à l'intérieur.
Très bien, c'est ce que nous avons entendu pendant cette conversation. J'adresse un grand merci à nos invités. Tout d'abord, Philippe d'Azébrun, dont je recommande la lecture de sa biographie spirituelle de Mauriac, Mauriac dans l'Église catholique, où la fidélité aux aguets, c'est au cerf. Et puis Florian Michel, qui nous a fait découvrir ce personnage hors du commun, Hélène Isfolsky, au temps de la lumière, c'est est aux éditions Salvator. Un grand merci également à Isabelle de Gaulemin, rédactrice en chef à La Croix, pour sa contribution à notre conversation. Un grand merci à Pierre-Henri Paget, notre réalisateur. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF. Et vous pouvez évidemment nous écouter en podcast quand vous voulez, où vous voulez, en balado-diffusion. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.